Sur notre table, entre le frère Ferdinand Posvic et moi-même, un livre qui pèse 2 kilos. Ce livre, c'est la correspondance de Don Colomba Marmion, un livre énorme, donc un travail tout aussi colossal.
Eh bien oui, ils ont commencé le bienheureux Colomba Marmion, puisqu'il a été béatifié lors du Grand Jubilé en l'an 2000, le 3 septembre, par le pape Jean-Paul II. Et ce bienheureux, dont on connaît surtout la trilogie, le Christ vie de l'âme, le Christ dans ses mystères et le Christ idéal du moine, ce bienheureux était très peu connu en dehors de ces trois œuvres majeures qui, je dirais, par rapport au personnage, sont un peu comme le château de l'âme chez Thérèse d'Avila. Et on voit une autre personnalité quand on commence à lire ses fondations ou ses correspondances. Eh bien, c'est ici, je crois, le travail qu'on a voulu faire.
Vous avez voulu faire découvrir un homme.
On a voulu faire découvrir l'homme, non pas qu'on ne le connaissait pas, puisque tout le procès de béatification avait obligé à mieux connaître l'homme. Et donc, je crois qu'on lui devait, à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de sa naissance, il est né le 1er avril 1858, il se définissait d'ailleurs comme un poisson d'avril, c'est une légende qui courait dans le monastère, enfin il y a des Fioretti comme ça qui continuent à circuler à son sujet. Et donc je crois qu'on lui devait de remettre le personnage dans sa vie réelle, donc, et c'est la correspondance qu'on a pu recueillir à l'occasion du procès de béatification, mais aussi depuis lors, on a à droite à gauche essayé de rassembler des choses qui restaient dans des archives ou dans des familles, etc.
Alors, quels sont les aspects que vous avez découverts?
Un de ses grands disciples était le père Lambert Baudouin, qui est le fondateur de Cheftogne, Amet Cheftogne, etc. Et à l'époque où le père Thibault a commencé à faire des publications en vue d'une béatification, donc dès après la mort de Don Marmion, il tripotait avec les lettres de Marmion, mais il coupait des morceaux pour ce qui était le plus spirituel à son idée. Et alors, le père Lambert Baudouin lui a écrit en disant, mais il y a deux manières de présenter un grand arbre fruitier. Ou bien on le laisse en plein vent et il donne des fruits tout à fait exceptionnels, ou bien on le colle contre un mur, un espalier, et ça devient des fruits, mais un peu artificiels. Moi, je préférerais que vous éditiez ça comme l'arbre en plein vent. Alors, c'est ce que nous avons pris comme parti ici, les 1867 lettres que nous avons pu recueillir. Alors, quand on dit lettres, c'est parfois des tout petits messages, une carte postale envoyée, etc.
Alors, la question qu'on se pose tout le temps, comment est-ce qu'on peut récolter ces lettres? Les gens à qui il a écrit vous ont donné ces lettres?
Alors, il y a deux grands blocs de lettres. Le premier, c'est celui qu'il a écrit à ses propres moines, et ce sont les lettres les plus nombreuses. Et celles-là, elles sont gardées dans les archives de l'abbaye, dans la mesure où ils ne les ont pas détruites.
Alors, il écrivait quand il était
Quand il
parti?
était parti, alors c'est une des caractéristiques qu'on lui a d'ailleurs reprochées dans le procès de béatification, c'est que c'était un moine assez ambulant, comme il était de langue anglaise, il a été prêché beaucoup en Angleterre, des retraites et partout. Et donc, il a beaucoup circulé, on le lui a reproché, mais en même temps, ça a donné toutes ses conférences spirituelles. Mais donc, il écrivait quand il était en voyage, dit même alors une carte postale, simplement pour dire « je ne vous oublie pas », son prieur, enfin bon, c'était très humain. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus caractéristique qu'on a vraiment découvert en faisant cette édition, c'est que Marmion a une humanité très chaleureuse. C'est un homme plein d'humour, parce que c'est un Irlandais, on sait que tous les Irlandais ont beaucoup d'humour. Donc il est toujours avec cet humour, cette chair, je dirais, humaine, à travers laquelle passe sa spiritualité. Moi, personnellement, une des choses qui m'a tout à fait étonné, parce que je n'en avais pas du tout l'idée avant de faire ce travail-là, c'est par exemple la relation que Don Marmion a avec les enfants. On n'imaginerait pas ça, parce que à travers le Christ vie de l'âme, qui est une structure spirituelle très thomiste. Et par exemple, il y a une petite fille là, qui a 10 ans, qui se prépare à sa communion, et il lui écrit tout ce qu'il faut. D'abord, il lui parle du baptême, donc notre corps est le temple du Saint-Esprit, il est donc un coffret qui renferme un trésor, le trésor c'est Dieu. Ce jour-là, le jour du baptême, le bon Dieu est devenu notre Père, nous sommes ses enfants, etc.
Comment les enfants ont-ils accès à un père abbé?
Mais alors, je crois que ce sont toutes des relations personnelles. C'est ça qui est extraordinaire à travers ces lettres-là. C'est vraiment des gens qu'il a rencontrés. La mère de cette petite fille est décédée et Don Marmion l'a aidée à mourir. Et donc, il a rencontré la famille et il a gardé des liens avec les petits-enfants qui étaient là.
Donc, un moine qui n'était pas enfermé dans son monastère.
Ben non, c'était un bon pasteur. Il faut savoir que Don Marmion est entré à Maretsu alors qu'il était déjà curé du diocèse de Dublin. Il avait d'ailleurs été vicaire dans une paroisse pendant plus d'un an.
On retrouve des signes de ses résistances dans sa correspondance.
Ah, il parle des difficultés. D'ailleurs, les toutes premières correspondances sont avant son entrée à Maretsu. Il a des grands copains, dont deux deviendront évêques d'ailleurs, avec lesquels il restera en correspondance jusqu'à la fin de sa vie. Donc, notamment l'évêque Dwyer qui va devenir évêque en Australie. Et c'est une des caractéristiques, il est très fidèle à ses amitiés. Tout au long de sa vie, une fois qu'il accroche avec quelqu'un, ça reste jusqu'au bout. C'est vraiment très... Et donc ça, c'est aussi une des caractéristiques. Une fois qu'il entre en dialogue spirituel avec quelqu'un, ça reste tout le long. Par exemple, cette petite fille, Baudard, là, il a encore avec elle, disons, des correspondances tout au long de sa vie. Et je n'ai plus le passage sous la main, mais à un moment donné, il dit « Ah, on vous a demandé ce que c'était que la liturgie. » Eh bien, dites aux gens que la liturgie, c'est le langage de l'Église pour dire le mystère du Christ. Et voilà, une petite phrase, et il dit ça à une jeune fille qui avait à ce moment-là 16 ans. Donc, dites autour de vous que la liturgie, c'est le langage de l'Église pour exprimer le mystère du Christ. Voilà une définition de la liturgie qui est extraordinaire du point de vue simplement linguistique de ce qu'on sait de la communication aujourd'hui. Dire que la liturgie, c'est le langage de l'Église pour exprimer le Christ, ça me semble assez extraordinaire comme communication et comme sens de la communication et comme justesse théologique.
Et vous dites qu'il a le sens de la communication. C'est à cause de ça qu'on a tant de lettres de lui.
Alors je pense, il écrivait énormément, ce qui était normal à une époque où il n'y avait pas de fax, pas d'internet, le téléphone, oui, il y en avait. Et la poste marchait admirablement. Alors ça, c'est une des choses qui m'a surprise du point de vue simplement historique. C'est qu'il pouvait écrire une lettre de Londres à son prieur un jour... Et le prieur avait le temps de lui répondre, et le lendemain, il avait la réponse sur des questions d'horaire, où on devait venir le chercher, etc.
Alors c'est un peu paradoxal, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'un moine, c'est l'homme du silence, l'homme de l'écoute, et on a une correspondance abondante.
Je crois qu'il y a des faux silences. Le vrai silence, c'est l'écoute de Dieu. Mais donc l'écoute de Dieu, et ça on voit très bien que Marmion est à l'écoute, qui prie, mais... Il est là pour quand même vivre en communauté. Donc c'est pour ça qu'on disait aussi, ah ben oui, toutes ces lettres, il avait des tas de filotés, comme on dit, des tas de dirigés. Et c'est vrai qu'il a beaucoup dirigé des femmes, etc. Et donc il s'occupe plus de ça que de ses moines. Et statistiquement, c'est pas vrai. La majorité des lettres, c'est à ses propres moines qu'il les écrit. Ça veut dire qu'il avait une relation avec eux. Et on sait bien qu'un monastère bénédictin, c'est un bouillon de culture.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert?
J'ai découvert qu'à la fois, c'est un impulsif, donc, hein, il se fâche contre des jeunes moines qui veulent contester son autorité, etc. Il les accuse, même, il y a des lettres très, 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 très violentes et étonnantes pour un supérieur. Donc,
Mais je crois que c'est la nature humaine aussi, la violence dans un couvent de moines.
Mais
ça paraît normal.
Je pense que c'est normal, mais ce n'est pas normal dans la tête de ceux qui croient que la charité exclut totalement la violence.
Vous avez parlé des moines, des jeunes moines avec lesquels il avait parfois des mots un petit peu forts. Don Marmion n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'avait pas eu cette communauté. Est-ce qu'on peut dissocier Don Marmion de l'abbaye qu'il a dirigée?
Il a bien pris l'esprit bénédictin, ça c'est certain, il l'a fait tout à fait sien. Mais en même temps, c'est vrai que le Maretsu de cette époque-là était un lieu de renouveau globalement. Et Marmion est arrivé là-dedans, je dirais au moment où Maretsu était dans sa phase de croissance maximum.
Cette correspondance, elle s'adresse à qui?
On vise à présenter l'homme qui est bienheureux, pour lequel on croit que l'Église un jour ou l'autre va le déclarer saint. Et donc, je crois que c'est important comme présentation de cette personne que l'Église a décidé de mettre sur les autels. Et je pense que c'est une œuvre d'Église que de présenter ce personnage et de pouvoir dire, puisqu'on l'a créé modèle pour les chrétiens qui cherchent Dieu, eh bien, tout quiconque qui veut chercher un modèle peut essayer de le trouver, notamment à travers ses lettres. Et il le trouvera peut-être plus facilement à travers cette correspondance qu'à travers la trilogie de ses œuvres spirituelles. Et donc, à travers cette édition, je pense que Monsieur Tout-le-Monde peut vraiment approcher un grand spirituel, avec justement cet aspect très humain où tous les petits côtés montrent les grands côtés. C'est-à-dire que c'est à travers vraiment une humanité que passe l'esprit. Et je pense que ça, c'est vraiment la théologie fondamentale de l'incarnation et cette idée majeure donc de la vision spirituelle de Don Marmion, que nous sommes des enfants adoptés de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, ça a été vraiment, c'est le fil rouge de toute sa spiritualité, prise de conscience qu'on est des enfants de Dieu. On est adoptés. Donc à partir de ce moment-là, ça donne, je dirais, on devient des êtres divins. Et à partir du moment de la conscience qu'on a d'être un être divin, le monde change autour de nous. Et je pense que Marmion est une, est une voie, dans les deux sens, V-O-I-X et V-O-I-E, est une voie qui nous mène vers le sens de l'incarnation.